Le Cluster Montagne est le réseau des acteurs de la filière de l'aménagement touristique de la montagne. Et nous avons le grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans notre troisième podcast de notre série des Clusters Montagne Insights. Bonjour et bienvenue, je suis Élodie Coutin, responsable communication, promotion et événements du Cluster Montagne. Et je vais vous guider tout au long de votre écoute dans cette série. Nous sommes en 2022 et c'est une année assez particulière pour le Cluster Montagne, puisque nous fêtons les 10 ans de l'association. Aussi, nous avions à cœur de revenir sur notre histoire, nos valeurs et surtout notre stratégie de développement. Le Cluster Montagne permet de faciliter le développement des entreprises au bénéfice des territoires en articulant son action autour de quatre piliers stratégiques : le réseau, l'innovation, la croissance et le développement durable. À chaque épisode, nous irons à la rencontre de membres, de partenaires, pour qu'ils puissent nous partager leurs expériences, leur savoir-faire, un de leurs souvenirs sur notre association, ou encore imaginer ensemble l'avenir de la filière. Aujourd'hui, je vous propose de parler un peu de prospective, car le Cluster Montagne anime un club Prospective Montagne pour contribuer à une réflexion collective sur le futur de la filière et du tourisme. Fruit des travaux de ce club, un cahier de tendance montagne est édité chaque année depuis 2019 par le Cluster Montagne en partenariat avec le Crédit Agricole des Savoies. Nous allons passer un petit moment aujourd'hui avec Dominique Crézillac, enseignant-chercheur en marketing à l'IAE Université Savoie-Mont-Blanc et membre du laboratoire de recherche IREG, accompagné de Pierre-François Adam, responsable prospective innovation, développement durable et entrepreneuriat du Cluster Montagne. Bonne écoute à tous. Bonjour Dominique, bonjour Pierre-François.
Bonjour.
Bonjour.
Dominique, on va commencer avec toi. Tu es contributrice du cahier de tendance montagne hashtag 3. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît ?
Oui, volontiers. Alors, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion, en marketing plus exactement, à l'Université Savoie-Mont-Blanc. J'enseigne le marketing et l'étude de marché à l'IAE Savoie-Mont-Blanc dans le département tourisme. Et en termes de recherche, je travaille depuis une vingtaine d'années sur les questions de consommation durable et de tourisme. Et dans ce cadre-là, j'ai pris la direction de la chaire Tourisme durable de la Fondation USMB.
Très bien, merci beaucoup. À tes côtés, nous avons Pierre-François Adam. Pareil, même exercice. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Oui, donc je suis aujourd'hui responsable du pôle innovation, entrepreneuriat et développement durable pour le Cluster Montagne. Moi, j'ai eu un parcours un petit peu atypique pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, puisque j'ai commencé mon parcours dans le génie biologique, puis dans l'agroalimentaire. Et en passant enfin par le management de projets innovants. En tout cas, le fil rouge qui m'a toujours suivi, ou alors que j'ai suivi moi, c'est toujours l'innovation au sens très large, et plus particulièrement l'innovation collaborative.
Alors depuis ta prise de poste au sein du Cluster Montagne, tu es, je dirais, coordinateur d'un club prospective. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Tout à fait. L'objectif de ce club était de pouvoir doter de la filière d'aménagement de la montagne d'un outil de réflexion et de veille et qui permette à chacun des dirigeants de les aider à y voir plus clair dans la définition de leur stratégie, moyen terme ou long terme. Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir les aider à identifier des tendances et de les aider à transposer ces tendances-là dans leur métier.
Alors effectivement, aujourd'hui, le sujet du podcast est la prospective. Alors Dominique, j'ai une définition qui indique que la prospective a pour objet d'éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles. Que penses-tu de cette définition ?
Alors c'est une définition qui est très ambitieuse de la prospective, mais je crois qu'elle indique bien que toute la difficulté de l'exercice de prospective, c'est-à-dire de se projeter vers l'avenir et d'essayer de se projeter, d'ouvrir un peu le champ des possibles et ne pas refaire à l'identique ce qu'on a déjà fait. Et c'est là toute la difficulté de l'exercice, c'est-à-dire qu'on part pas dans n'importe quoi. C'est pas forcément de la science-fiction, bien qu'elle puisse être une inspiration parfois, mais l'idée c'est d'essayer de repérer peut-être des micro-événements, des signaux faibles, hein, soit sur le marché, soit dans parmi les usages, soit dans les tendances sociétales ou les évolutions du monde, pour voir en germe, hein, ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait advenir. Il y a une deuxième dimension dans la prospective qui est intéressante, c'est aussi l'idée de ne pas toujours subir cet avenir. Il y a des éléments qu'on va évidemment subir collectivement, mais c'est de se préparer, pas dans une dynamique de résistance, mais plutôt d'adaptation et de flexibilité par rapport à la suite, et d'essayer d'infléchir et de réfléchir proactivement à ce qu'on pourrait faire, alors en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que territoire. Après, la prospective peut se mener à bien des égards. Mais l'idée, c'est non seulement d'imaginer, mais de pouvoir se projeter au mieux et déjà d'anticiper ce qu'on peut faire par rapport à ces évolutions et voir celles qu'on devra subir et celles sur lesquelles on peut éventuellement avoir une action.
Donc effectivement, face à cette nécessité d'imaginer pour s'inspirer et de bousculer nos modes de pensée, Pierre-François, tu as travaillé sur le troisième opus du cahier de tendance montagne. Est-ce que tu pourrais nous le présenter, s'il te plaît ?
Donc le cahier de tendance montagne est un outil de prospective, il en existe plein, qui peut passer des think tanks à de la littérature comme on fait avec le cahier, ou à des groupes de réflexion. Dans notre cas, il nous a semblé intéressant de travailler sur ce format-là, tout simplement pour laisser une trace, laisser le temps aussi de lire, de s'imprégner de certaines informations. Ça, c'était quelque chose qui était important. La prospective, c'est le temps long, donc effectivement, c'est aussi le temps de la lecture. Et donc, ce troisième opus a été donc amélioré et en tout cas structuré autour de trois parties qui nous semblaient nous essentielles. Une première partie sur laquelle on présentait différentes tendances. Donc on a fait le choix sur cet opus de trouver des tendances sociologiques, technologiques, économiques ou environnementales, et de pouvoir creuser ces sujets-là. Le deuxième point clé de ce cahier, c'est effectivement cette ouverture à l'international. Il nous semblait intéressant de pouvoir aller interroger nos partenaires internationaux sur leur vision du développement des stations de montagne, sur leur vision de ce que c'est que le développement durable pour eux, de comment ils perçoivent également la diversification de leurs activités. Et effectivement, l'exercice a été payant parce qu'on se rend compte qu'en fonction de la région du monde, les résultats, les visions sont vraiment peuvent être parfois divergentes. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le noter. Et troisième partie qui nous semblait intéressante à livrer, c'était cette boîte à outils. Ça, c'est clairement pour faire écho à l'ADN du cluster montagne, qui est d'allier la réflexion à l'action. Et donc, on souhaitait apporter au lecteur un certain nombre d'outils pour les engager dans l'action, justement, une fois que l'on a un peu réfléchi à son positionnement, sa stratégie. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? On propose quelques outils pour commencer à passer à l'action.
Alors, cet opus a effectivement une partie internationale très importante. D'ailleurs, on pourrait préciser et compléter en disant que le cahier de tendance 3 a été traduit en anglais, pour être donné, transmis aux décideurs des délégations internationales que le cluster montagne a accueilli à l'occasion du salon Montagne Planète au mois d'avril dernier. Donc Dominique, de ton côté, tu as contribué à l'édition 2021-2022 du cahier de tendance montagne avec un article co-rédigé avec Davy de Maline en positionnant la micro-aventure comme une perspective durable pour les territoires. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement Davy dans un premier temps et puis nous présenter ce qu'est une micro-aventure ?
Alors, Davy de Maline, c'est quelqu'un qui a repris ses études un petit peu sur le tard et qui a fait un master 2 en géographie et qui s'est penché sur la question de la micro-aventure. Donc, ça faisait écho à des travaux qu'on avait menés avec ma co-auteure Hélène Michel sur cette pratique de la micro-aventure. Alors, la micro-aventure, c'est tout simplement l'idée que dans sa vie quotidienne ou sans attendre d'être en vacances, on va pouvoir vivre pas loin de chez soi des aventures, c'est-à-dire des moments qui ont vraiment toutes les caractéristiques de l'aventure. On est dehors, tout n'est pas prévu, tout n'est pas planifié, on est un peu en autonomie. Et ça, on n'a pas besoin d'attendre d'être en vacances, ça peut se faire près de chez soi, avec relativement peu de moyens et avec relativement peu d'engagement physique, en tout cas moins que dans une aventure avec un grand A. Donc ce terme, il est apparu dans le champ de la recherche, mais aussi dans le champ des médias depuis une dizaine d'années. Finalement, il a cristallisé des pratiques qui existaient déjà. Et nous, on a voulu le mettre en avant en disant, finalement, c'est quelque chose qui est à suivre parce que ça révèle une envie d'intercaler dans sa vie quotidienne des moments qui ont du sens. Donc ça fait écho avec plein d'autres tendances sociétales, donner du sens à sa vie quotidienne, peut-être pas subir non plus un rythme rythme de la vie quotidienne, avoir l'impression de mener une vie intéressante. Alors on peut le voir de façon très péjorative, hein, mais finalement, pour beaucoup de gens, ça a du sens, ça donne du piment, ça donne de l'intérêt à sa vie quotidienne, ça permet de se dire qu'on accomplit aussi quelque chose dans sa vie et qu'on essaie de se jouer un petit peu des contraintes. Donc cette tendance, elle est issue de beaucoup de pratiques. Il y a plein de pratiquants finalement qui ne l'ont pas du tout appelé comme ça, micro-aventure. Donc le terme, il est un petit peu médiatique, mais finalement, il va décrire un ensemble de pratiques et surtout un ensemble de pratiques qui font envie. Au-delà des gens qui le font, il y en a plein d'autres qui ont envie de cette idée-là, que ça séduit. Et ça rejoint cet accent qui est mis depuis un certain temps sur les clientèles de proximité. C'est-à-dire qu'en complément de cette envie de faire venir des gens de loin, quand on a un territoire touristique, vraiment, les clientèles locales sont aussi à considérer. Elles sont créatrices de valeur potentiellement.
Alors justement, en parlant de territoire, on observe beaucoup de territoires qui travaillent sur une offre touristique 4 saisons. Pierre-François, est-ce que tu penses que ce format de micro-aventure pourrait répondre à de nouveaux usages de la montagne ?
Sans doute. En tout cas, ce que je trouve intéressant au travers de ce concept, c'est qu'il est extrêmement créatif quelque part. Je le situe un petit peu à l'opposé de quelque part du tourisme de masse où on a une offre qui est très standardisée et unique. On est tout à fait à l'opposé avec, au contraire, des offres complètement de niche, destinées peut-être à une poignée de touristes. Alors voilà, effectivement, il faut s'organiser par rapport à ça. Mais du coup, ça permet aussi de voir les choses, et en tout cas les offres touristiques d'un territoire sous un autre angle. Et ça permet peut-être, alors ça c'est une intuition tout à fait personnelle, mais ça permet aussi peut-être plus facilement de faire ressortir les spécificités d'un territoire. En ça, je trouve ça assez intéressant, et sans aller jusqu'à faire que du microtourisme, je pense que ça peut être une belle source d'inspiration.
Alors Dominique, dans ta contribution, tu abordes la nécessité de structurer l'accueil des micro-aventuriers sur les territoires de montagne. Quels sont pour toi les points à ne pas négliger pour un territoire accueillant des micro-aventuriers ?
Alors effectivement, le point que tu soulignes, il est important, c'est-à-dire que cette pratique, finalement, elle va pas être seulement développée par l'offre, elle va être beaucoup développée de façon autonome par des individus, et dans la majorité des cas, ça pose aucun souci. Mais il y a un certain nombre de pratiques qui vont avoir des effets collatéraux un peu délétères sur notamment l'environnement, avec des questions tout à fait concrètes de gestion des déchets, de respect de la propriété privée, puisque pour beaucoup d'usagers de la montagne, finalement, la montagne, c'est un lieu public. On se pose pas trop la question de savoir à qui ça appartient, alors que ça appartient toujours à quelqu'un. Et donc, il peut y avoir une série de comportements un petit peu déviants, sans forcément le vouloir, mais qui sont délétères pour l'environnement. Alors, ça, c'est évidemment à réguler, sans doute, mais il y a un deuxième point qui est l'envie aussi des territoires. Est-ce qu'ils ont envie d'accueillir ce type de tourisme-là ? Eh bien, pas toujours. Parce que finalement, il y a cette idée que si des touristes viennent ou des gens viennent de l'extérieur profiter, entre guillemets, des ressources d'un territoire, c'est pour y laisser de l'argent. Et peut-être que là, il y a une partie des pratiques de micro-aventure qui sont des pratiques autonomes, et c'est peut-être là que ça coince. C'est-à-dire que pour l'instant, pour un certain nombre de pratiques, c'est pas évident de capter la valeur économique qui est créée. On ne sait peut-être pas la mesurer, il n'y a peut-être pas les infrastructures ou l'offre de services qui va avec. Peut-être d'ailleurs que ce n'est pas souhaitable pour une partie des pratiques. Et que sur certains territoires, finalement, l'envie de voir venir ce nouveau tourisme n'est pas si évidente que ça. Pour autant, je crois qu'on peut aussi interpréter cette envie d'une montagne autonome comme quelque chose qui est extrêmement un signal tout à fait positif de l'envie de montagne. Alors peut-être que la forme en face est encore à travailler pour éviter ce non-respect de la propriété privée, ces mises en danger parfois avec des clientèles renouvelées, peut-être moins expertes que ce qu'on imagine avoir été les clientèles traditionnelles, la gestion des déchets qui peut poser problème. Donc tout ça, c'est évidemment à gérer, je le minimise pas. Mais je crois qu'on peut aussi s'attacher à ce point très positif de cette envie d'aller dehors.
Est-ce que tu aurais un exemple, une anecdote à nous partager ?
Alors, Je pense toujours au développement du couchsurfing, donc cette tendance. Bon, il y a une vingtaine d'années, on voyait déjà des voyageurs traverser le monde en allant d'un canapé à un autre de façon gratuite. Et finalement, les professionnels de l'hôtellerie ont regardé ça avec beaucoup de hauteur et sans forcément s'en préoccuper beaucoup. mais ça révélait déjà une envie d'un autre type peut-être d'hébergement qui s'est financiarisé et matérialisé à travers le développement d'Airbnb qui, sur cette période-là, est devenu un acteur majeur du secteur de l'hôtellerie. C'est ça la difficulté et aussi l'intérêt de la prospective. C'est effectivement de repérer des signaux faibles, mais on va avoir du mal à savoir lesquels vont finalement être vraiment structurants sur le marché 15 ans après. Maintenant, si on s'interdit de les regarder en se disant « on n'est pas sûr que ça se développe », mais on n'est plus dans la prospective.
Et là encore, pour donner un exemple concret et faire le lien avec l'article qu'a écrit Philippe Moati dans le cahier de tendance, où on observe également une tendance qui est le « do it yourself », donc faire les choses soi-même. Bon, effectivement, on est sur une pratique qui est autonome, qui aujourd'hui ne génère pas ou peu de modèles d'affaires. Mais quand on dézoome sur cette pratique, on se rend compte que ce qui... plaît aux pratiquants, c'est pas tant la finalité de fabriquer ou d'avoir un plat ou de jouer d'un instrument, c'est aussi tout le processus d'apprentissage d'une part et aussi de socialisation que ça entraîne. Parce que on va commencer à rencontrer des gens qui ont la même passion, on va se mettre sur des forums, on va commencer à monter en compétences. Et donc, on se dit, tiens, effectivement, do it yourself, pas trop de modèles économiques, mais finalement, il y a de la formation. Et pourquoi pas, on peut capitaliser effectivement sur ce volet-là. Donc là encore, une tendance faible, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais typiquement, il peut y avoir des choses intéressantes à creuser. Et en tout cas, minima, peut-être le garder en tête.
Parfait, merci à tous les deux pour ces échanges très riches. Allez, on termine avec la traditionnelle dernière question de nos podcasts. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Dominique, de ton côté, si tu devais qualifier le cluster montagne en trois mots, lesquels tu choisirais ?
Alors, j'ai quand même envie de dire le mot réseau, ça me paraît important, mais ce réseau, il est au service de quoi ? Et je crois qu'il y a cette idée d'inspiration partagée. Se donner des idées, échanger sur des idées et de réflexions communes. Et je crois que c'est vraiment ça le cœur du cluster montagne.
Et toi, de ton côté, Pierre-François, lesquels tu choisirais ?
Alors de mon côté, je pars du principe qu'on innove toujours mieux ensemble, en tout cas à plusieurs, que tout seul dans son coin. Donc le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot intelligence collective. Bon, il y en a deux, désolé. Ensuite, il y a le volet créativité qui m'inspire beaucoup, en tout cas que m'évoque le cluster montagne. Et enfin, il y a le volet expert. Parce que effectivement, on représente un réseau d'experts sur l'aménagement des territoires de montagne, et c'est ce qui fait clairement notre spécificité et également notre force.
C'est parfait. Merci beaucoup à vous deux pour ces échanges de cette matinée autour de la prospective.
Merci, merci Elodie. À bientôt.
Merci Elodie. À très vite dans le bureau.
Merci à tous d'avoir suivi ce troisième épisode et je vous donne rendez-vous dans un mois pour célébrer les 10 ans du cluster montagne. Nous serons en compagnie de Xavier Gallo-Lavallée, premier président exécutif de l'association, et de Patrick Granderie, président actuel du cluster montagne. N'hésitez surtout pas à partager ce podcast au sein de votre réseau. À bientôt !